Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Le projet de réforme des retraites prévoit une unification de la TVA à 20%. Le parti gouvernemental Affaires publiques a annoncé les aides fiscales pour les familles. Une exposition de précieux manuscrits a été ouverte au Musée national de Prague. Les ministres tchèques en charge de l'économie se sont mis d'accord jeudi sur les grandes lignes de la réforme des retraites. Selon le nouveau système, les personnes de moins de 35 ans pourraient, à partir de 2013, cotiser 3% de leur assurance sociale sur des comptes privés d'épargne retraite. Les ministres ont également adopté, dans le cadre de ce projet, une unification de la TVA à 20%, mesure qui permettrait à l'État d'économiser entre 57 et 58 milliards de couronnes par an, somme destinée à couvrir le déficit des retraites. Cette unification touchera également les produits et services taxés jusqu'à présent à 10%. Seuls certains produits alimentaires de base, par exemple le pain, le lait, les légumes ou les poissons, ne seront pas concernés par l'augmentation de la TVA. Le projet sera soumis au gouvernement mercredi prochain. D'après le Premier ministre Petr Nečas, il devrait être finalisé début mars. Il fera ensuite l'objet d'une discussion entre la coalition gouvernementale et l'opposition. Le Parti social-démocrate, premier parti de l'opposition, a déjà fait savoir qu'il ne soutiendrait pas l'unification de la TVA au Parlement. Comme annoncé ce vendredi par le ministre des Transports, Vid Bárta, du parti gouvernemental Affaires publiques, l'unification de la TVA à 20% pourrait être compensée par des déductions fiscales pour les familles avec enfants. Et les personnes âgées peuvent s'attendre quant à elles à une valorisation des retraites. Le Musée national de Prague expose depuis ce vendredi au public le manuscrit de Boitzen de la Chronique de Cosma ou Chronica Bohemorum, écrite en latin au XIIe siècle. Prague l'avait reçu en cadeau de la part des autorités communistes est-allemandes au début des années 1950. Cette exposition s'inscrit dans un projet plus large d'exposition de plusieurs précieux manuscrits, dont la fameuse Chronique de Dalimil et les Chroniques de Przybyk Pulkava et de Jan Marignola. Ces expositions exceptionnelles seront à voir tout au long du mois de mars et du mois d'avril. Les Tchèques font partie des plus gros consommateurs de boissons alcoolisées au monde, indique le rapport de situation mondiale sur l'alcool et la santé récemment publié par l'Organisation mondiale de la santé. Selon ce document, ce sont les Moldaves qui arrivent en tête avec plus de 18 litres d'alcool pur par an, soit trois fois la moyenne mondiale qui s'établit à 6,1 litres. Le classement des pays où l'on boit le plus au monde inclut donc également la République tchèque avec 16,45 litres d'alcool par personne et par an, la Hongrie, la Russie, l'Ukraine et l'Estonie. Depuis le début de l'année, la grippe a causé la mort de 7 personnes dans la région de Moravie-Silésie. 6 décès ont été liés au virus de la grippe porcine. Un homme de 62 ans est mort cette semaine de la grippe H3N2. Aucune de ces 7 victimes n'a été vaccinée contre la grippe. La Moravie du Nord reste une des régions les plus touchées par les infections des voies respiratoires, avec plus de 2000 cas sur 100 000 habitants. Les visites dans les hôpitaux locaux restent limitées. Match nul jeudi soir à Prague, le Sparta et le FC Liverpool se sont quittés sur le score de 0-0 après ce match aller des 16e de finale aller de la Ligue Europa, anciennement Coupe de l'UEFA. C'était la première fois que les deux clubs s'affrontaient en Coupe d'Europe. Match retour au stade d'Anfield jeudi prochain. Le Tchèque Tomáš Berdych, deuxième tête de série du tournoi, a été éliminé ce vendredi en quart de finale de l'Open 13 de tennis à Marseille. Il a dû s'incliner devant le Croate Marin Cilic 3-6-4-6. Côté météo, le ciel restera chargé samedi, jour de fête des Patriques en République tchèque. Les températures varieront entre moins 1 et 3 degrés pour les maximales. Pour dimanche, la météo annonce des éclaircies sur la majorité du territoire, mais les températures seront en baisse. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. Tout de suite, fais événement en République tchèque avec Alexis Rosenzweig.
Fais événement en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Magdalena Hrozinková pour ce bulletin d'information. Vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de Radio Prague et dans notre émission aujourd'hui, Nous parlerons d'abord de politique, oui, avec à nouveau des négociations entre les différents partis en perspective d'un changement important dans le système d'élection du président de la République. En effet, si les partis parviennent à un accord définitif, le successeur de Václav Klaus pourrait être élu directement par les citoyens et non plus par les membres du Parlement, comme c'est le cas actuellement. Un hommage ensuite à un homme de lettres tchèque disparu en France la semaine dernière, Prokop Voskovec, c'est son nom, poète et traducteur. Nous en parlerons dans un instant avec le photographe Karel Steiner, devenu son ami dans les dernières années de sa vie. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, Alena Gebertova reviendra dans le miroir de la société sur la révolution égyptienne vue de Prague. Je vous souhaite une très agréable écoute où que vous soyez dans le monde. On commence donc avec de la politique. Les trois partis de la coalition au pouvoir et le Parti social-démocrate, principale formation de l'opposition, se sont réunis jeudi pour discuter d'un changement du mode de scrutin pour la prochaine élection du président de la République. Jusqu'à présent, le chef de l'État a toujours été élu par les députés et les sénateurs. Les forces politiques en présence se sont mises d'accord sur une élection au suffrage universel direct et le prochain président tchèque pourrait donc être élu directement par les citoyens. Plus de détails avec Alimoudine Ousmani.
L'élection du président a lieu une fois tous les 5 ans. Le successeur de Václav Klaus au château de Prague sera donc élu en 2013. Les compétences du président sont notamment de représenter le pays à l'étranger, de nommer et de révoquer le Premier ministre et les autres membres du gouvernement. Il est également chargé de signer les lois et les traités internationaux, de dissoudre la Chambre des députés ou encore d'accorder des grâces et des remises de peine aux condamnés. Les politiciens réunis jeudi souhaitent remettre en cause certains pouvoirs du président. Ils discutent d'une éventuelle révocation de son immunité, car à l'heure actuelle, il jouit d'une immunité totale en matière judiciaire. Il souhaite également limiter son pouvoir de grâce et réfléchit sur la possibilité de pouvoir le contraindre à démissionner en cas de besoin. Le ministre de la Justice, Jiří Pospíšil, a donné plus de précisions sur cette nouvelle réforme.
Nous sommes conscients que les dispositions actuelles en cas de haute trahison sont insuffisantes. Et c'est pour cela que nous sommes prêts à discuter de certains changements qui sont la norme dans d'autres pays de l'Europe de l'Ouest. Je pense à la responsabilité du président en cas de non-respect de la Constitution par ce dernier ou bien de sa responsabilité pénale.
L'opposition semble disposée à collaborer pleinement avec le gouvernement pour parvenir à cet accord qui modifierait de manière substantielle le paysage politique tchèque. C'est ce qu'a confirmé le député social-démocrate Jeroným Tejc.
Nous procédons de manière très responsable. Nous sommes conscients de la responsabilité de la social-démocratie sur le déroulement ou non de ces élections présidentielles au suffrage universel, car nous sommes le parti le plus représenté, que ce soit à la Chambre des députés ou au Sénat.
Concernant le mode de scrutin, la coalition au pouvoir et le principal parti d'opposition doivent encore choisir entre 2 modèles. Le premier est une élection du président en 2 tours. Similaire aux élections sénatoriales actuelles, où au second tour s'opposent les 2 candidats sortis en tête du premier. Le second est le modèle australien. Les électeurs ne se rendent qu'une fois aux urnes, mais ils classent par ordre de préférence tous les candidats. Les détails minutieux doivent être encore élaborés par les conseillers législatifs du gouvernement ainsi que par les experts légaux. La prochaine rencontre entre la coalition et l'opposition est prévue le 2 mars prochain.
Suite de cette émission, avec maintenant un détour par Paris, la capitale française, où mercredi se sont déroulées les obsèques du poète et traducteur tchèque Prokop Voskovec, Paris où il vivait depuis 1979. Neveu du comédien célèbre Jiří Voskovec, Prokop Voskovec s'est éteint à l'âge de 69 ans des suites d'une longue maladie, c'était le 9 février dernier. Le photographe tchèque Karel Steiner, également installé dans la capitale française, le connaissait bien et il a bien voulu évoquer ses souvenirs avec Anna Kubišta qui lui a d'abord demandé dans quelles circonstances il s'était rencontré.
Bon, Prokop Voskovec, je rencontré parce que depuis des années, je travaille sur un projet photographique J'ai fait des portraits de la communauté tchèque en France et j'avais la chance de rencontrer Prokop comme ça. Ça fait déjà peut-être 6 ans qu'on se rencontrait et que j'ai réalisé son portrait chez lui.
Comment s'est passée justement cette rencontre photographique avec Prokop Voskovets? Je suppose qu'avec toutes les personnes c'est différent. Comment c'était avec lui?
Prokop Voskovets m'a accueilli d'une façon très chaleureuse. C'était formidable. On a tout de suite commencé à parler. Son épouse Vlasta était là. Je pense peut-être aussi d'autres artistes comme Miloš Sikora, qui habite dans le même immeuble, était là. Vers la fin, j'ai déballé mes flashs et l'appareil photo et j'ai fait quelques prises de vue, quelques clichés, mais surtout, on a beaucoup, beaucoup parlé.
Alors, Prokop Voskovets se décrivait lui-même, en tout cas, c'est ce que j'ai pu lire dans certains entretiens qu'il a accordés, notamment à la radio tchèque il y a quelques années. Il se décrivait lui-même comme un poète qui n'écrit pas. Comment est-ce que vous l'entendez?
Écoutez, oui, c'est un peu sa réputation. Je pense qu'il a quand même écrit pas mal, mais peut-être ça n'a pas toujours été publié, ça restait dans le tiroir. Mais il était actif, il s'intéressait à beaucoup de choses. Mais c'est vrai, si on le compare, par exemple, avec Petr Kral, qui a écrit des dizaines de livres, Prokop Voskovets n'a pas sorti beaucoup d'œuvres.
Justement, vous mentionnez Petr Kral, c'est l'occasion de rappeler que Prokop Voskovets, dans les années 60, a fait partie de cercles surréalistes, justement, avec Petr Kral, Stanislav Dvorsky également. Il a mis en scène, alors c'est un homme de poésie, c'est aussi un homme de théâtre, puisqu'il a mis en scène, il a participé à la mise en scène de Ubu Roi d'Alfred Jarry dans les années 60. Donc ça, c'est un peu pour toutes ses activités. En 1977, il a signé la charte 77. Il a perdu la nationalité tchécoslovaque, on lui a retiré. Et il est parti en France. Est-ce qu'il vous a parlé un petit peu, justement, de cette période de l'émigration, de l'exil et de comment il l'avait vécu?
Oui et non. Il était assez modeste. Il n'a pas vraiment parlé de charte 77. Il a parlé plutôt de sa vie quotidienne en France. Il était livreur, il a travaillé comme messenger avec son scooter, son moto, et je pense qu'il a adoré ça. Pour lui, c'était une façon de voir Paris, visiter des gens, visiter des bureaux. Il a beaucoup parlé de ses amis tchèques qui vivaient en France, encore une fois Petr Kral.
Si vous deviez en quelques mots dire quels souvenirs Prokop Voskovets va laisser pour vous, quelles sont les qualités finalement qui le caractérisaient et qui faisaient que vous l'appréciez?
Prokop Voskovets pour moi était quelqu'un très très chaleureux qui aimait des gens. Après cette première visite chez eux, chez lui, je suis retourné plusieurs fois parce que je voudrais être avec lui. C'est quelqu'un qui a parlé d'une façon très intéressante. Et chaque fois que je suis allé chez lui, c'était peut-être 5-6 fois, je me retrouvais pas seulement avec Prokop et Vlasta, mais d'autres gens, je vais répéter les noms, comme Miloš Sikora, Tomáš Fribert, Hanna Schicker, qui habitait à l'époque en France. Et c'était toujours très très convivial. On a parlé de tout, de la Tchécoslovaquie, de l'art, un peu de surréalisme. Il s'intéressait à moi, qui j'ai photographié plus récemment. Il s'intéressait à des gens, tout simplement.
C'était un humaniste.
C'était un humaniste, tout à fait.
C'était le photographe tchèque Karel Steiner, installé à Paris, et ancien ami de Prokop Voskovets, poète et traducteur, décédé la semaine dernière à Paris. Suite de programme en français de Radio Prague, avec comme toutes les fins de semaine le miroir de la société. Comme ailleurs, la révolte, les dernières évolutions et la situation actuelle en Égypte sont suivies de près par les médias et par les représentants politiques tchèques.
Pour sa rubrique, Alena Gebertova a retenu quelques-unes de leurs réactions et elle a lu les commentaires qui sont apparus dans la presse nationale pour vous en présenter quelques extraits. Le miroir de la société, c'est tout de suite sur Radio Prague.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Nous espérons que le processus en cours donnera lieu à la naissance d'un État doté de plus de droits et de plus de démocratie, dit dans les pages de la dernière édition de l'hebdomadaire Respect le chef de la diplomatie tchèque Karel Schwarzenberg, et de préciser quelle est la position de la diplomatie tchèque à l'égard des émeutes en Tunisie, en Égypte et d'une manière générale dans le monde arabe.
Nous sommes prêts à offrir notre aide sur la base de nos expériences, si celle-ci est sollicitée par l'autre partie. Nous pouvons, par exemple, envoyer nos experts, qui sont capables de donner des instructions sur la manière de s'acquitter ou de ne pas s'acquitter à l'égard du régime partant, sur la façon de traiter les criminels liés au passé. Nous pouvons également offrir notre expérience en ce qui concerne la privatisation des biens.
Karel Schwarzenberg espère un dénouement heureux des émeutes dans le monde arabe. Le scénario le plus noir pour lui serait de voir les violences déboucher sur l'instauration d'une dictature. Il estime qu'il serait très malheureux de voir les puissances voisines, qu'il s'agisse de l'Iran ou d'Israël, commencer à s'immiscer dans les affaires des pays en question, afin de les influencer.
En ce qui concerne la position de l'Europe, le chef de la diplomatie tchèque insiste sur la nécessité de son comportement réticent. Par ailleurs, d'après ses propres paroles, l'Europe ne peut pas faire grand-chose car son influence dans la région n'est plus ce qu'elle était auparavant, même encore dans les années 60. C'est fini maintenant.
En rapport avec la révolte égyptienne, Karel Schwarzenberg affirme ne pas avoir vraiment peur de la menace islamiste. Pourquoi ? Il explique.
C'est par les frères musulmans que le malheur devrait prétendument arriver. Mais n'oublions pas que c'est une organisation vieille de plus de 80 ans et qui a perdu le caractère radical qu'elle avait à ses débuts. Cette organisation avait ses députés au sein du Parlement égyptien. Le radicalisme des frères musulmans a été en partie repris par de nouvelles organisations émergentes.
Cyril Svoboda, ex-chef chrétien-démocrate de la diplomatie tchèque, s'attend, quant à lui, à une plus grande islamisation de l'Égypte. Ceci dit, ce n'est pas une tragédie, mais un fait, écrit-il dans un de ses récents commentaires publiés sur son blog, avant de dire plus loin.
Les émeutes dans le nord de l'Afrique représentent des événements majeurs qui marqueront notre époque. Il s'avère que beaucoup d'hommes politiques européens ont été surpris par cette révolte, à laquelle ils ne s'attendaient pas. Nous nous sommes habitués à considérer la stabilité dans cette région comme une valeur sûre. Plus encore, des États comme la Tunisie ou l'Égypte servaient d'exemple de stabilité économique et politique.
Il conclut en constatant que les événements révolutionnaires en Égypte sont la manifestation spontanée d'un mécontentement social et politique, un processus contenant en quelque sorte des attributs de la démocratie libérale.
Le social-démocrate Lubomir Zaoralek estime pour sa part que même si le processus révolutionnaire dans le nord de l'Afrique comporte certains risques, il traduit des revendications et des aspirations qui nous sont proches et auxquelles nous pouvons nous identifier.
Devra faire l'Occident face aux transformations démocratiques qui se déroulent dans le monde arabe? Telle est la question que s'est récemment posée dans une émission radiophonique le politologue Rudolf Kučera et à laquelle il a répondu.
Une chose semble évidente, il ne faut plus soutenir les dictateurs, même si ce n'est pas toujours facile. Il existe certaines possibilités pour l'Union européenne. Il s'agit en premier lieu de créer le concept d'une Méditerranée démocratique et de soutenir économiquement et politiquement les pays qui sont en train d'entamer les processus de transformation. Il faut soutenir les changements constitutionnels et démocratiques, encourager une plus grande partition du pouvoir, favoriser le parlementarisme, les partis politiques, les associations civiques, etc.
Pour l'instant, dit-il, l'Union européenne demeure à l'écart, comme si certains de ses États membres avaient honte de leur passé colonial ou de leur pacte maintenu avec les dictateurs arabes au cours des dernières décennies. Mais si elle ne met pas à profit cette chance unique lui permettant d'ouvrir un nouveau chapitre des relations mutuelles, elle risque de confirmer pour longtemps son image négative aux yeux du monde arabe.
L'étincelle dans le monde arabe. Tel est le titre d'un article paru dans l'édition de mercredi du quotidien économique Hospodářské noviny, qui réfléchit sur l'approche des Tchèques à l'égard des événements qui se déroulent actuellement dans plusieurs pays arabes.
L'espoir de la liberté, c'est ainsi, selon l'auteur de l'article, que l'on pourrait surnommer la principale étincelle qui allume les pays du monde arabe l'un après l'autre. Ce n'est donc pas, comme veut le faire croire le président iranien Mahmoud Ahmadinejad, une révolte de la population arabe contre les gouvernements pro-occidentaux corrompus, même si cet élément aurait pu jouer un certain rôle en Égypte, il précise.
Il existe beaucoup d'arguments pour prouver à quel point la révolte actuelle dans le monde arabe diffère de la vague révolutionnaire de la fin des années 80 en Tchécoslovaquie. Chez nous, nous n'avions pas faim, et à la différence de l'Égypte, nous menions une vie aisée. Lors de notre révolte contre le régime, nous n'avons pas risqué nos vies. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de choses qui nous auraient manqué, sauf la liberté.
Lorsque nous avons jubilé et fêté le retour de la liberté, les gens en Occident auraient pu porter sur nous un regard identique à celui que nous avons maintenant tendance à porter sur ce qui passe au Caire ou à Téhéran. Nous, une population en liesse, un peu négligée, de drôles de sauvages qui veulent joindre leur monde qui est libre, mais qui est en même temps soumis à des règles.
Et l'article de s'achever sur la conclusion suivante.
Il se peut que l'évolution en Égypte n'aboutisse pas à la démocratie. Il se peut que l'Iran continue à tourmenter l'Occident, mais cela ne veut pas dire que l'on puisse se permettre de prendre à la légère les aspirations à la liberté de leur population. Il ne s'agit pas d'une révolte d'une populace ou encore d'ennemis religieux, mais d'une révolte de gens qui sont comme nous et qui ont maintenant la chance de profiter de l'étincelle contagieuse de la liberté. On notera à la fin que l'Égypte est la 7e destination touristique privilégiée des Tchèques. L'année dernière, plus de 230 000 touristes tchèques l'ont visité. L'intérêt ne semble pas s'amoindrir, même maintenant, en dépit du fait que le ministère des Affaires étrangères déconseille de voyager dans ce pays. Ainsi, les agences de voyage tchèques vont renouveler ce samedi les vols à destination des principales stations égyptiennes au bord de la mer et qui sont désormais complètement vendues.
C'était Alena Gebertova qui vous a présenté le Miroir de la Société. La prochaine émission du Miroir de la Société se sera dans 2 semaines, vendredi prochain. Vous retrouverez Anne-Claire Veluire pour une nouvelle édition de la rubrique Économie-Commerce. C'est également la fin du programme en français de Radio Prague pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour les émissions culturelles et littéraires avec le Tchèque du bout de la langue aussi préparé par Guillaume Narguet. Et puis lundi, on se retrouve pour le programme d'actualité quotidienne. On parlera notamment d'une nouvelle exposition au Musée National de Prague, nouvelle exposition consacrée aux anciennes chroniques du Moyen-Âge, du XIIe siècle même, les chroniques de Cosmas et de Dalimil qui sont exceptionnellement exposées au Musée National national de Prague jusqu'à la fin du mois d'avril. Je vous souhaite un très agréable week-end où que vous soyez dans le monde. Alexis Rosenzweig au micro. Pour plus d'infos sur la République tchèque, vous connaissez l'adresse de notre site www.radio.cz, www.radio.cz/fr pour les pages en français.